Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien démarré. Excusez-moi pour le contretemps d'une petite journée. J'avais envie de vous préparer un épisode avec un petit cadeau supplémentaire. Or, il me fallait du temps pour le réaliser. Donc, j'ai pris ce temps pour faire quelque chose de bien. Voilà pourquoi ça sort un jeudi matin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode juste vous et moi, surtout pour parler conseils bruts. On n'est pas là pour m'entendre râler sur Absolu encore une fois. J'ai remarqué que beaucoup de personnes paniquaient au moment de l'envoi en maison d'édition et surtout beaucoup de personnes étaient tout à fait désordonnées dans leur envoi. Et donc dans la manière de les gérer, de savoir « Ok, mais je sais plus ce que j'ai envoyé, à qui, quand ça, ce qui a été envoyé dans, comme document. » Bref, c'est un petit peu le foutoir. Et pour le coup, ça c'est un truc que j'ai fait relativement bien dès le départ, puisque quand j'ai envoyé Absolu en maison d'édition en juin 2021, ça commence à remonter, j'avais fait tout un tableau Notion super propre pour tout me rappeler, pour tout faire correctement. Et c'est pour ça qu'on a un jour de retard, c'est que je vous ai refait ce tableau Notion totalement propre, comme ça vous pourrez le télécharger tout à fait gratuitement, c'est vraiment cadeau, pour pouvoir suivre en réalité vos envois en maison d'édition. Mais avant de vous laisser le voir, on va peut-être discuter de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce Notion. Oui, je dis Notion, Notion, ça dépend. Et pourquoi moi je pense que c'est utile, comment vous pouvez ajouter des choses, les modifier, bien évidemment. Je n'ai pas la science infuse. Si vous n'êtes pas d'accord avec un élément, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais dans mon cas, je pense que tout ça, ça peut être grandement utile pour pouvoir suivre ça. Parce que oui, les envois en maison d'édition, c'est très éprouvant. Parce que déjà, c'est long. Dans mon cas, j'ai commencé à avoir des réponses pour Absolu 4 mois après les premiers envois et j'ai eu mon oui pratiquement un an après. Donc ça peut être très frustrant, très long, on a tendance à regarder un peu sa boîte mail tous les jours. Dans tous les cas, je vous renvoie vraiment vers les épisodes de podcast où je parle aussi de mes refus. Si vous voulez, je vais les mettre dans les notes de l'épisode, comme ça vous pourriez y avoir accès hyper facilement. Mais c'est un moment pas facile, donc autant se faciliter la vie sur d'autres points. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon petit Notion? Alors, je vous ai fait un premier écran où dessus on a un modèle d'email à personnaliser bien sûr, l'endroit où vous pourrez noter votre pitch de roman et l'endroit où vous pourrez noter votre synopsis ou en tout cas insérer le document du synopsis. Pourquoi faire ça? Pour gagner du temps. Pour gagner du temps si vous avez beaucoup d'envois à faire. Alors bien évidemment, le modèle d'email que je vous ai mis, pour être tout à fait franche avec vous, c'est quelque chose généré par ChatGPT. Et qui fait ça très bien parce que j'ai vérifié en allant regarder un peu ce que moi j'avais utilisé à l'époque, grande époque où ChatGPT n'existait pas, et c'est assez proche en réalité, donc ChatGPT est plutôt bon dans le modèle d'email, et évidemment il faut le personnaliser et il ne faut pas l'écrire tel quel. C'est une base sur laquelle vous pouvez travailler, mais au moins une fois que vous avez créé un modèle d'email qui vous plaît, qui correspond à votre personnalité, qui correspond à l'univers de votre roman, bah au moins il est là. Et vous pouvez à chaque fois l'utiliser et le remodifier pour chaque maison d'édition pour en faire quelque chose d'ultra personnalisé. C'est important, on n'envoie pas la même chose à tout le monde. On doit sentir, en tout cas la maison d'édition ou le comité de lecture, quand il va recevoir votre mail, votre courrier, peu importe, il doit sentir que vous êtes vraiment adressé à eux, que c'est pas juste un truc fait comme ça, voilà, au moins... Vous avez envoyé à tout le monde, vous savez pas trop à qui vous avez envoyé. C'est important de personnaliser. Et pour mieux personnaliser, on aura tout le tableau en dessous de mon Notion. Mais donc déjà ça, c'est important. Ensuite, du coup, le pitch de mon roman. Ça, c'est un pitch en quelques lignes que vous allez devoir peut-être répéter plusieurs fois dans beaucoup de documents. Donc autant l'avoir noté quelque part, en propre, sans faute d'orthographe. Et quitte à avoir même plusieurs versions de ce pitch, genre une version en une phrase, une version en un paragraphe, une version en trois paragraphes, en fonction de la longueur qu'on vous demande, parce que toutes les maisons d'édition n'ont pas les mêmes demandes. Donc ça, c'est important. Et le synopsis, ça m'étonnerait que vous puissiez le copier-coller dans le Notion, mais vous pouvez tout à fait glisser votre document à l'intérieur pour pouvoir y avoir accès plus facilement. Donc voilà, ça, c'était vraiment la base qui est là tout le temps et qui peut vous servir pour vos envois. Ensuite, on arrive à la partie intéressante du tableau, le suivi de mes envois. Alors, ça va être plus clair quand vous pourrez regarder le Notion, si vous le téléchargez, sachant que c'est tout à fait un logiciel totalement gratuit, hein, donc c'est pour ça que je l'utilise. mais je peux facilement quand même en discuter avec vous. Première colonne, la plus évidente, éditeur-collection. Donc savoir à qui vous envoyez, dans quelle collection. Par exemple, moi je suis publiée chez Bragelonne, plus précisément chez Castelmore, plus précisément dans la collection Big Bang. C'est important, parce que vous pouvez avoir une maison d'édition qui a plusieurs collections qui, par exemple, pourraient correspondre à votre roman. Ça me paraît très étonnant, mais c'est possible. Donc important de le noter. Ensuite, vous avez une petite case caractéristique. Qu'est-ce que j'entends par caractéristique ? Je veux savoir si la maison d'édition, elle est présente en salon, si elle est présente en librairie. Genre, on peut trouver ses livres à l'achat en librairie et non pas juste à la commande. Est-ce qu'elle est indépendante ? Est-ce qu'elle appartient à un gros groupe ? Moi, je vous ai mis quelques exemples de caractéristiques, mais c'est à vous d'ajouter aussi en fonction de vos besoins, de vos envies. Alors, si vous ne savez pas encore très bien comment trouver une maison d'édition, et notamment comment faire attention à éviter les arnaques, je vous renvoie vraiment, dans les notes de l'épisode, à un atelier qu'avait fait Bleu Nguyou sur le sujet, donc comment bien choisir une bonne maison d'édition, éviter les arnaques, comment se renseigner, comment établir ses priorités et ses envies. Je vous renvoie vers ça, parce que là, pour le coup, c'est un cours complet de plus d'une heure et demie, donc ce serait très difficile à résumer ici. Mais oui, c'est hyper important d'avoir en tête ce que vous voulez et ce que vous cherchez dans une maison d'édition, et notamment pouvoir regarder les caractéristiques des maisons à qui vous envoyez, pour savoir si ce sont des caractéristiques importantes pour vous. Moi, dans mon cas, c'était ultra important pour moi que ma maison d'édition soit présente en librairie. Je voulais vraiment pouvoir voir mon livre en librairie. La présence en salon, bien évidemment, c'était dans mon top des priorités. Après, par exemple, si elle était indépendante ou appartenait à un gros groupe, ça, je m'en fichais un peu, tant que d'autres caractéristiques était rempli pour moi. Donc ça dépend vraiment de chaque personne, mais c'est hyper important que vous le notiez pour chacun des envois que vous avez faits, au cas où c'est des maisons d'édition que vous connaissez un peu moins, au moins vous savez direct, ok, c'est une maison d'édition, on la trouve en librairie, par contre elle est jamais en salon, etc., etc. Troisième petite colonne, livres similaires aux miens dans leur collection. De toute façon, dans le Notion, je vous ai fait un petit exemple. Donc, pourquoi ça, c'est important ? Parce que ça peut être un argument au moment de présenter votre manuscrit. De dire, ah bah ok, je prends l'exemple le plus courant. J'ai vu que vous avez publié, il y a quelques années, Hunger Games, le labyrinthe. Donc, vous publiez de la science-fiction dystopique pour adolescents. Il se trouve justement que j'ai adoré ces lectures et que j'ai écrit aussi un livre de science-fiction dystopique pour adolescents qui pourrait donc convenir à votre collection. Donc ça, c'est important, on ne va pas commencer à aller citer les livres des voisins, à moins que ce soit vraiment un énorme best-seller et que du coup, ça donne envie à la maison d'édition et à sa collection de vous avoir. Mais c'est encore mieux de pouvoir citer des livres dans leur collection qui correspondent aux vôtres, pour montrer que vous n'êtes pas tombé là par hasard, que vous n'êtes pas paumé, que vous savez de quoi vous parlez, que vous avez étudié un peu leur catalogue, c'est important. Ensuite, j'aime bien cette petite case. Il y a la case « Mon classement ». Pour savoir, vous, comment vous situez la maison d'édition d'une échelle à zéro, genre « je veux pas aller là », donc ne faites pas d'envoi dans ce genre de maison d'édition, à l'échelle « c'est mon rêve ». Donc dans mon cas, j'ai créé quatre petites options. On a la numéro 1, genre si c'est cette maison d'édition qui vous dit oui, c'est bingo. Dans mon top 5, j'aime mais sans plus. Donc voilà, ça correspond à vos critères, mais vous connaissiez pas forcément, vous n'avez pas d'attache émotionnelle particulière avec cette maison d'édition. Et on a là, en dernière option. Ce qui veut pas dire, cette maison d'édition, c'est de la merde, mais plutôt, c'est pas vraiment ce que j'aurais vraiment choisi en premier. Il y a une des caractéristiques qui n'est pas remplie, par exemple. Dans votre cas, imaginons, cette maison d'édition n'est pas encore présente en librairie, même si elle souhaite le devenir, et vous, c'était un de vos critères, donc cette maison d'édition, elle va être plutôt en dernière option chez vous. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir en tête à peu près où vous en êtes. Ensuite, on a l'état, donc savoir si vous avez envoyé votre manuscrit, pas encore envoyé du coup, si c'est en préparation, si ça a été envoyé, si vous avez reçu un retour comme quoi c'était en comité de lecture, si c'était en lecture par l'éditeur ou l'éditrice, et si c'est accepté ou refusé, bien évidemment. Ça permet exactement de voir où on en est dans les manuscrits. Est-ce que ça a un peu avancé ? Est-ce que c'est pas encore très avancé ? C'est plutôt chouette. De même, à chaque fois que vous envoyez un manuscrit, vous allez entrer votre date d'envoi et ça va automatiquement vous calculer une date de relance à 4 mois. Pourquoi 4 mois? Parce que je pense que c'est un délai relativement raisonnable. Il y a certaines maisons d'édition, dans leur présentation, par exemple sur leur site, qui vont vous dire « Ah non, pas de relance, de toute façon on répond pas avant un an ». Donc bon, là ça servira à rien de faire une relance. Par contre, il y a des maisons d'édition, on peut tout à fait faire un petit mail de relance, pas en 2 semaines, mais par exemple 4 mois après, ça semble être un délai raisonnable, entre 4 et 6 mois, faire un petit mail, bonjour, avez-vous bien reçu mon manuscrit? D'autant plus quand la maison d'édition n'a pas fait un mail de réception, de confirmation de réception, comme quoi elle avait bien reçu votre manuscrit et que c'était envoyé en comité de lecture et tout ça. Là, si vous avez vraiment un silence radio qui s'est rien passé entre 4 et 6 mois, vous pouvez faire un petit mail de relance pour demander si le manuscrit a bien été reçu. Pas plus, c'est déjà pas mal. De même, je ne sais plus à combien de cases on est, mais on va arriver à la méthode d'envoi. Savoir où est-ce que vous avez envoyé votre livre, formulaire site internet, mail, courrier papier, appel à texte, un concours d'écriture en main propre. Bien évidemment, si vous trouvez une nouvelle manière d'envoyer un livre à un éditeur, vous pouvez aussi rajouter cette méthode d'envoi, mais encore une fois, ça permet de vous y retrouver. Enfin, on a les 3 dernières catégories, le site web, notamment, pourquoi pas, la page exacte où vous devez envoyer votre manuscrit ou avec les consignes pour les envois de manuscrits. Le mail, soit de l'éditeur, si vous l'avez carrément, ce serait vraiment chouette si vous aviez directement son mail. Si vous n'avez pas le mail, bah le mail des soumissions de manuscrits, bref, ou le mail de la collection, le mail où il faut envoyer tout simplement votre manuscrit. Et la dernière catégorie, c'est les documents demandés par la maison d'édition. Donc vous, ça c'est à vous de rentrer ça. Vous pouvez noter les consignes entières, vous les copier-coller, vous les mettez dedans. Au moins, ça vous permet de dire, ok, pour cette maison d'édition, j'ai dû juste envoyer mon manuscrit et un synopsis. Mais pour celle-là, ce n'était que les 4 premiers chapitres, synopsis, résumé et fiche personnage. Au moins, vous voyez à peu près ce que vous avez dû créer pour chaque et ce qu'ils ont entre les mains au moment de l'envoi. Voilà. C'était rapide comme épisode de podcast, mais en même temps, je pense que c'est nécessaire de vous donner les outils pour vous aider dans les envois de manuscrits, qui est un moment vraiment stressant, vraiment déstabilisant, parce que, en fait, tant qu'on écrit notre roman, on a plein pouvoir dessus. On a plein pouvoir de son avenir, on a plein pouvoir de ce qui va arriver, alors qu'au moment où on démarre les envois en maison d'édition, on devient inactif, on devient passif, et on perd un peu ce pouvoir décisionnel, pardon. On subit l'attente, et c'est très complexe, vraiment très complexe. Et ça va faire 3 ans que j'ai fait ces envois personnellement, mais je me souviens vraiment, je sursautais à chaque fois que je recevais un mail, dès que j'avais un mail qui contenait un nom d'une maison d'édition, même si c'était juste pour me dire qu'ils avaient reçu le manuscrit, j'avais le cœur qui commençait à palpiter, à bondir dans ma poitrine. Donc, je ne peux que comprendre à quel point on se sent fragile au moment d'envoyer son texte à la lecture, à quel point ça semble être une étape difficile. On trouve toujours les bonnes excuses pour repousser, et une fois qu'on l'a fait, on a l'impression d'avoir sauté dans le vide, on a l'impression d'avoir lâché prise, et c'est un peu effrayant. Je vous dis pas que si vous ne faites pas un tableau avec le suivi de vos envois, vous allez échouer à faire publier votre manuscrit. Non, en fait, ça, ce genre de truc que je viens de vous donner, et qui, à mon avis, est incomplet, parce qu'on peut toujours ajouter des choses, c'est juste là pour vous rassurer, pour vous donner un cadre. Moi, en tout cas, ça m'a aidé. Ça m'a aidé de pouvoir noter au fur et à mesure comment ça a avancé, si j'avais reçu des réponses ou non. Si c'était passé en comité de lecture, j'avais l'impression d'avoir gagné une étape, d'avoir upgradé quelque chose. Et en fait, la plupart du temps, les conseils d'écriture ou d'édition ne sont pas forcément obligatoires. Ils sont utiles, mais ils ne sont pas obligatoires. Mais parfois, les cadres, parfois les règles, ou parfois les conseils, ça aide juste à mieux se lancer. Ça aide à avoir un peu moins peur. Donc, j'espère de tout cœur que ce petit Notion va vous plaire, qui va vous aider à mieux vous lancer, et que vous allez faire vos envois d'édition en étant plus serein, plus organisé. Et au moins, voilà, moi j'ai été regarder mon petit tableau que j'avais fait il y a 3 ans, et ça m'a fait me replonger dans cette époque, avec toutes ces possibilités, c'est aussi ces lettres de refus, et en fait j'ai vécu ça avec beaucoup de nostalgie, parce que du coup j'avais une trace de tout ce que j'avais fait, à qui j'avais envoyé. Donc, gardez précieusement tout ça. Et même si vous avez, par exemple, des retours négatifs, gardez-les vraiment précieusement, parce que le vous, dans quelques années, qui aura publié des romans, parce que vous allez y arriver, il pourra les relire avec beaucoup de nostalgie et beaucoup de tendresse en disant « Bah ouais, je suis passée par là, et pour autant j'ai fait mon chemin. » Donc c'est intéressant, je pense, comme travail de mémoire au-delà d'un travail d'organisation. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ce tableau va vous servir, va vous aider. C'est pour ça que j'ai créé, et que même si vous n'utilisez pas ce tableau, ce que j'ai énuméré dans cet épisode vous aidera également à vous organiser. On se retrouve la semaine prochaine pour une interview de folie. J'ai trop hâte. Très honnêtement, c'est une personne surbookée en termes d'agenda. J'ai réussi à avoir 1h30 d'enregistrement avec elle. Et j'ai tellement hâte parce que c'est un genre que j'ai pas encore pu aborder sur le podcast. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'arrête de vous teaser. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à mercredi prochain.